boule vanille. J'aime bien la framboise.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Bonjour, c'est Lucie. Tout au long de l'année, vous entendez ma voix dans l'émission d'information locale L'Arène, qui reviendra à la rentrée au mois de septembre. Là, ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est Deux boules vanille, une carte blanche qui est laissée aux équipes de la radio pendant la période estivale. Et dans l'émission du jour, on retrouve le podcast de la mort tout un art, réalisé par Lucille Millard, bénévole, avec aujourd'hui un épisode long format.
La mort, tout un art. L'art de traverser les civilisations sur le funéraire avec Laura Bourdet.
Donc, je suis médiatrice culturelle au musée de Bretagne depuis 3 ans. Et on travaille actuellement sur une exposition temporaire qui ouvrira ses portes au musée de Bretagne le 16 mars. Jusqu'au 22 septembre 2024 et qui s'appelle « Mourir, quelle histoire ». Alors elle est déjà présentée en ce moment à l'abbaye de Daoulas. C'est une coproduction avec l'abbaye de Daoulas. Et l'idée c'est de s'intéresser aux rites funéraires en Bretagne et dans le reste du monde, puisque contrairement à ce qu'on pense autour de la mort, qui est un sujet souvent tabou, surtout en France, s'intéresser aux morts c'est avant tout s'intéresser aux vivants. Et dans un musée de société comme le musée de Bretagne, les rites funéraires en disent beaucoup sur notre culture et sur les autres aussi. Donc l'intérêt de cette exposition, c'est d'explorer tout ça, ce que ça dit des hommes et des femmes qui ont vécu en Bretagne et du coup dans d'autres cultures aussi, puisqu'on aura des objets extra-européens qui nous évoquent aussi toutes ces différences culturelles et aussi ce qui nous rassemble, puisque quelle que soit l'époque et le lieu dans le monde, tout le monde traite ses morts, ça c'est un point commun. Et c'est souvent un moment de rassemblement qui nous réunit et qui engage des sociabilités. Donc c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est pas une exploration morbide du tout. On s'intéresse à ce qui nous fait un peu surmonter tout ça.
Et aujourd'hui, nous sommes au musée de Bretagne, dans l'enceinte des Champs Libres à Rennes. Avant d'accueillir cette exposition, Mourir, quelle histoire, vous allez nous amener dans les collections permanentes pour une visite guidée. Est-ce que c'est une visite que vous proposez tout au long de l'année ?
Alors on vient de commencer à la proposer pour préparer un peu le terrain, on va dire. Donc c'est une visite qui s'appelle Mourir en Bretagne, qui explore ce thème avec nos collections dans le parcours permanent, au premier étage des Champs Libres en effet, puisqu'on a beaucoup d'objets qui nous parlent déjà des rites et de comment ils ont évolué dans le temps sur le territoire, ce qu'on ne traitera pas dans l'exposition du coup. Et c'est une visite qui sera proposée notamment cet été, en semaine, et peut-être après, s'il y a de la demande. Donc on va commencer par la préhistoire, la première période, voilà, tout à fait. Donc c'est une visite chronologique. Et donc sur les 2000 mètres carrés du musée et ces 2400 objets, on va essayer de trouver ceux qui nous parlent de ces rites funéraires. Alors en sachant que dans cette première période qui commence il y a 600 000 ans, au moment où l'Homo erectus arrive en Bretagne, on a très peu de traces funéraires en France et encore moins en Bretagne, puisque la Bretagne a la spécificité d'avoir un sol très acide qui ne conserve pas les restes humains. Ce qui fait qu'on a très peu de traces de sépultures et on n'en a presque pas avant le Paléolithique supérieur, donc il y a 35 000 ans. Et quand on commence à en trouver, c'est sur des endroits spécifiques, notamment à Teviec et à Wédic, qui sont deux îles bretonnes, où on a pu retrouver deux sépultures dans les années 50-60, il me semble, puisque ces sépultures avaient été creusées dans des amas coquillés. Et comme c'est du calcaire, ça permet de conserver cette fois les corps. Donc c'est les seules traces qu'on a pu retrouver pour cette période. On a pu retrouver différents corps de différents âges et de différents sexes, ce qui veut dire qu'on avait peut-être déjà une sorte d'idée de caveau familial, avec des tombes qui ont été réouvertes, donc avec cette idée peut-être de mettre des individus ensemble. Et quand même du coup l'idée d'avoir un culte des morts qui s'opérait malgré la période où les hommes et les femmes sont semi-nomades. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a trouvé peu de traces de sépultures, puisqu'on ne vit pas au même endroit, donc il n'y a pas de cimetière. On ne peut pas retourner voir les morts au même endroit, puisqu'on se déplace en fonction des troupeaux de chasse.
Et là, les sépultures qui ont été retrouvées, est-ce que les archéologues ont pu déterminer si elles étaient proches du foyer ou plus éloignés de la vie quotidienne.
Les groupes humains se situaient plutôt sur la côte et près de l'eau en général. Donc là, comme c'est une île, on peut imaginer que c'était un endroit habité effectivement par ces groupes de chasseurs-cueilleurs. Mais j'ai pas trouvé de traces d'idées d'implantation par rapport au milieu de vie. Par contre, c'est intéressant puisqu'en avançant dans le temps, au Mésolithique, là, l'endroit où vont être enterrés les morts sera beaucoup plus symbolique puisque c'est au milieu du foyer. Pour le coup, ce serait en imaginant que les hommes et les femmes vivaient dans des sortes de huttes parce qu'en Bretagne, il y a très peu de grottes. Les morts étaient enterrés sous le feu, vraiment au milieu de la maison. Ce qui fait très bizarre aujourd'hui, à une époque où les cimetières sortent de plus en plus loin de la ville. Quand on revient au tout début de l'humanité, on était vraiment au cœur de la maison. Et aujourd'hui encore, c'est plus possible, puisque même si on voulait garder, par exemple, une urne funéraire chez soi, c'est impossible, selon la législation. Donc je trouve que c'est intéressant de remonter ce temps pour voir comment ça évolue aujourd'hui. Où il y en a qui le font malgré la loi, mais normalement, on ne peut plus. Voilà pour la préhistoire. Alors, c'est assez sommaire, mais en avançant jusqu'au néolithique, donc l'âge de la nouvelle pierre, on va pouvoir voir des premières sépultures assez monumentales. Donc là, on arrive à moins 5000. Et ici, on se retrouve au musée devant une maquette, qui est celle du cairn de Barnenèse. Donc un cairn, en breton, ça veut dire un amoncellement de roches. Et le cairn de Barnenèse, qui est situé à côté de Morlaix, sur la commune de Plouezor, est sans doute un des plus gros mégalithes européens, puisqu'il fait en réalité 72 mètres de long, une dizaine de mètres de hauteur, et comportait 11 chambres funéraires. Donc c'est un peu l'ancêtre de la pyramide égyptienne, mais avec 2000 ans de plus. C'est assez impressionnant quand on le compare comme ça, parce qu'on a tous une image des pyramides, et les cairns préexistaient aux pyramides à une autre échelle, puisque ce n'était pas celle des pharaons, évidemment. En étant plus ancien. Donc c'est assez allongé et bas comme formation de pierre. Et il faut s'imaginer que ces 11 couloirs funéraires en fait sont composés de dolmens. Donc dolmen en breton ça veut dire table de pierre. Donc c'est deux pierres levées qui supportent une troisième pierre à l'horizontale. Et mis les uns après les autres, ça forme un couloir funéraire au bout duquel on débouche sur une chambre funéraire qui est ronde, qui ressemble à peu près à un four à pain ou un colombier. C'est étagé comme ça. Ou alors ça peut être une grosse dalle de pierre ronde aussi. Et dans lesquelles, alors on n'a toujours pas retrouvé de corps puisque le sol est toujours très acide. On a retrouvé un tibia dans ce monument. Mais on sait que c'était sans doute une vocation funéraire, notamment grâce au mobilier. On a retrouvé des bijoux, des haches polies qui sont des symboles de pouvoir de l'époque. Et le fait qu'on ait seulement 11 entrées montre bien qu'il y avait déjà un statut particulier, sans doute, puisque il fallait sans doute être important pour avoir le droit d'être enterré dans ce type de monument, qui n'était pas donné à tout le monde. D'accord. Donc sans doute un accès réservé pour les personnes déjà importantes, et donc une hiérarchisation de la société qui se marque par le lieu où on est enterré. Et ça, finalement, c'est ce qu'on va retrouver, quelle que soit la culture et l'époque aussi, c'est que tout ce qui est funéraire relève d'un enjeu social, de montrer sa richesse, son importance, son rôle dans la société. Et que ça soit dans le parcours permanent ou dans la future exposition, on va voir que c'est un enjeu de prestige, qu'on veut montrer cette richesse à travers, après la mort, en fait, tout simplement.
Et le cairn, ici, on est face à la maquette. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'on peut encore le visiter?
On peut le visiter, c'est un très beau site à voir d'ailleurs, près de la mer. Alors aujourd'hui, il n'est plus sous la forme que montre la maquette, puisque la maquette est entière. En réalité, il a été grignoté par des tractopelles qui ont trouvé que c'était une très belle carrière de pierre et qui ont récupéré les pierres pour former une route touristique. Donc toute la partie arrière gauche a disparu, mais ce qui permet aussi de rentrer dans les allées couvertes et de visiter les chambres funéraires. Et en fait, cette déconstruction a son importance aussi puisque les entrepreneurs ont été arrêtés par des archéologues qui ont mis fin à ce chantier. Et un procès a eu lieu envers eux qui a donné lieu à la première jurisprudence barnenaise. Aujourd'hui, ça existe toujours en droit français, qui oblige les personnes qui vont abîmer des monuments historiques à payer les réparations, ce que ne fait pas cet entrepreneur parce qu'il fait faillite. mais ça a donné un précédent dans le droit français. Donc c'est quand même important puisque, ne serait-ce qu'au niveau dissuasif, ça permet d'éviter ce type de déconstruction aujourd'hui, en sachant que sinon, du coup, les personnes doivent payer la réparation. Voilà, donc ça a quand même son importance. Donc devant, on a une vitrine qui montre le type d'objet qu'on pouvait retrouver dans ces monuments funéraires. C'est pas ceux qui ont été retrouvés dans le cairn eux-mêmes parce qu'ils sont conservés au musée de Pinmar, mais on va retrouver des objets symptomatiques de la période du néolithique, donc l'âge de la nouvelle pierre, et ce sont des pierres polies qui sont lisses, elles sont abrasées par le sable, ce qui les rend plus tranchantes. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment les lames des haches, elles étaient emmanchées dans des manches de bois. Celles-ci sont assez peu abîmées parce qu'elles ont sans doute pas servi, donc c'est ce qui nous laisse penser que c'était des haches à Dapara, qui permettait encore une fois de montrer sa richesse, le fait qu'on pouvait échanger des pierres plus ou moins précieuses. On a notamment de la jadéite des Alpes, qui était une pierre très appréciée par sa couleur, par sa qualité. Donc on voit qu'il y avait aussi déjà des échanges néolithiques et du coup une sorte de pré-commerce. Mais on sait qu'en tout cas les dolmens, aujourd'hui on appelle ça plutôt le tombeau de Merlin, mais ça avait une vocation funéraire, contrairement aux menhirs, donc ces grandes pierres levées, où là on sait qu'il n'y avait pas du tout de but funéraire.
Et comment on sait alors que ça avait un but funéraire ?
Selon ce qu'on fouille à côté, ouais. Donc, alors, en Bretagne, on n'a pas retrouvé de corps, mais dans d'autres lieux d'Europe, on a retrouvé des corps. Donc on sait que ça avait cette fonction. Donc c'est par comparaison finalement avec d'autres sites.
Et ça veut dire que les personnes étaient enterrées en pleine terre ?
En pleine terre, ouais. De ce qu'on a retrouvé. Peut-être s'il y avait du bois, en tout cas, on n'a pas retrouvé de traces, mais ça se dégrade très vite. Mais je crois pas qu'il y ait de cercueil au néolithique. Il faut attendre le Moyen-Âge. Par contre, il aurait pu y avoir des parures de coquillages. Ça, du coup, c'est ce qu'on a pu retrouver notamment à Wedik ou des choses comme ça dans certaines tombes. Peut-être des tissus ou des peaux de bêtes. Voilà, on peut imaginer ce genre de matériaux organiques. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que derrière vous, on a une maquette en bois pour le coup, qui est un habitat du néolithique, donc un lieu qui a été retrouvé appelé Châtel. Et je le dis juste à titre de comparaison, puisqu'on a un habitat en bois pour les vivants et en pierre pour les morts, puisque le cairn est bien en pierre. Donc c'est un peu comme les églises en pierre, alors que les habitats étaient en bois, on donne plus de survie aux morts qu'aux vivants. Pour que ce soit un monument aussi de prestige, et c'est le cas du cairn de Barnenez, on voulait qu'il se voie de loin, d'où la pierre claire qui avait été choisie pour le construire. Le but, c'est encore une fois de montrer un peu l'importance du peuple, de la culture qui existait à ce moment-là. Alors souvent, on dit que les menhirs datent des Gaulois, mais donc là, maintenant, vous savez que c'est le néolithique. On va aller voir comment les Gaulois traitaient leurs morts en avançant un peu dans le temps. Donc les Gaulois, c'est la période de l'âge du fer. On est à moins 500, moins 450 en armorique, on ne parle pas encore vraiment de Bretagne. Et la pratique qui est diffusée dans toute cette Europe celtique, c'est l'incinération. Donc à ce moment-là, on n'a plus du tout de sépulture. On a majoritairement, en tout cas, des restes humains qui sont conservés dans des poteries et qu'on retrouve quand même enterrés. C'est ce qu'on voit dans le musée au sol. On a des vitrines au sol qui permettent de voir ce qu'on a pu retrouver en contexte de fouilles. Soit de façon fortuite, soit de façon pour des fouilles qui sont plus organisées. Et c'est ce qui permet d'avoir un peu cette culture qu'on appelle cette culture celtique, et qui montre bien une unité finalement sur toute cette zone et cette période, une même façon de traiter ses morts sur toute cette étendue géographique, et qui va perdurer jusqu'à la fin de l'Antiquité romaine.
D'accord.
Voilà, ça va changer en fait en fonction des religions et des croyances finalement. Là, on a une période polythéiste. Et quand arrive le christianisme, le but c'est la résurrection, donc il faut garder son enveloppe corporelle, donc la pratique de l'inhumation va se diffuser. Mais on y reviendra. Je fais un petit saut dans le temps. On a aussi une trace pour la période gauloise d'un culte des ancêtres. Donc dans une des vitrines du musée, on va retrouver 4 statuettes de bustes, peut-être d'hommes, mais il n'y a pas vraiment d'éléments sexués. Qui serait donc attribué à un culte des ancêtres comme le faisaient les Romains. Alors moi j'imagine l'armoire aux ancêtres qu'il y a dans Mulan, je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que c'est un peu le même principe en tout cas d'honorer les ancêtres avec des encens à ce moment-là dans Mulan, mais c'est totalement une autre culture. En tout cas on a des représentations de ces personnes qui devaient être importantes puisque le mieux conservé d'entre eux tient dans ses mains un instrument de musique qu'on peut associer, alors qu'on appellerait en termes scientifiques un cardophone, mais plus communément une lyre, qu'on reconnaît à ses cordes et à son cadre en bois. Et cela indique sa fonction. Donc c'est un barde. Et les bardes faisaient partie de la catégorie des druides, qui sont tout en haut de la société gauloise, qui transmettent le savoir. Donc eux, par la musique et par le chant, leur rôle, ça va être de chanter la gloire des héros à leur retour de combat, ce que ne fait pas Assurance Tourix dans la BD, mais normalement ce qu'il aurait dû faire. Et autour du cou, il a une sorte de collier, qui devait être un collier en bronze, qu'on appelle un torque, et qui est aussi un symbole de pouvoir, c'est un peu la Rolex de l'époque. En tout cas, c'est un objet de prestige, qui montre qu'il avait un rôle important dans la société. Et donc les trois autres statuettes qui sont autour de lui ont un peu les mêmes traits, on retrouve une sorte de bonnet au niveau des cheveux, des yeux en amande, une bouche fermée, des petites oreilles en forme de trois. Donc l'idée, c'était pas de faire un portrait des défunts, mais de marquer l'idée d'une lignée. On avait un sculpteur par famille, et donc l'idée, c'était de montrer cette filiation, finalement, d'une famille. Ce qui est déjà assez développé hein, pour un peuple qu'on assimile souvent à des barbares, des brutes, des guerriers, qui avaient en fait finalement des croyances assez développées, mais aussi des systèmes mathématiques assez poussés. On pense souvent que les Romains ont amené la civilisation, mais il y a déjà des croyances très ancrées chez les Gaulois, qui vont se développer avec l'arrivée des Romains. En fait, tout simplement, on retrouve toujours les objets de l'élite. Malheureusement, la population plus modeste a laissé moins de traces, mais c'est justement aussi l'objectif du musée de Bretagne, qui se veut un musée d'histoire populaire, de remettre en place, de remettre en valeur finalement cette partie de la population majoritaire. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'équilibrer les choses entre l'élite et la population peut-être plus modeste, qui était plus majoritaire finalement. Donc là, on a cette vitrine sur l'élite qui montre ses quatre statues, mais à côté, on a une vitrine qui représente ce monde paysan avec des productions plus modestes, même si là, on a surtout des céramiques. C'est aussi justement des modèles de céramique. Alors ici, on est plus sur de l'alimentaire, mais qui pouvaient servir à enterrer, à garder les restes humains. À côté, on a un poteau funéraire qui doit faire 1,70 m. Ici, c'est une copie, mais on a fait une copie à partir d'un poteau funéraire retrouvé à Melvin. Et ce qui est intéressant, c'est le décor qui apparaît un petit peu dans sa partie supérieure, qui s'inspire totalement du Parthénon, qui reprend un peu ce décor de métope et de grec qu'on retrouve dans les motifs grecs. Et ce qui paraît assez étonnant de l'avoir retrouvé en Bretagne, mais ce qui montre bien cette unité culturelle qui existe dans cette période d'Europe celtique, et qui va jusqu'au mortuaire, au funéraire encore une fois, puisqu'on veut toujours être à la mode, que ce soit pour les vivants ou pour les morts. Il y a toujours cette idée de motifs qui sont à la mode à ce moment-là. Donc on reprend ces motifs qui circulent d'un côté de l'Europe à l'autre.
Et là, quelle était sa fonction ?
Et donc là, c'était pour le coup de marquer un emplacement funéraire. Donc il n'y avait pas forcément d'inhumation, mais ne serait-ce que pour enterrer les urnes funéraires, on pouvait retrouver ce type de poteau associé à voilà, des sépultures, même si c'était pas forcément des corps qui étaient enterrés.
Aux morts, poussière d'étoiles, lève-toi sous mes pas, viens aux douces vagues qui brillent dans les ténèbres. Emporte-moi dans ton néant. Viens, souffle sombre où je vacille comme une flamme ivre de vent. C'est en toi que je veux. Comme une fleur des fleurs de soleil à la cime des eaux. Et comme d'une amphore d'or, un vin de flamme et d'arôme divin.
Mort, poussière d'étoiles, par Baume et Babix.
On va avancer vers l'armorique gallo-romaine. Donc au moment de l'armorique gallo-romaine, à partir de 52 avant Jésus-Christ, on reste sur cette pratique de l'incinération. Les religions, les croyances vont fusionner entre les Gaulois et les Romains, mais il n'y a pas de grosses différences. En avançant au fond de cette vitrine rouge, on trouve un ensemble de céramiques, encore une fois, qui semblent être tournées cette fois, donc qui sont peut-être un peu plus travaillées que celles de l'époque gauloise, et qui avaient la même fonction de déposer les restes humains. Sauf pour les enfants de moins de 6 mois ou 1 an, où là, on avait des sépultures et des inhumations. Et juste à côté, on se retrouve à côté des premiers cercueils. Donc comme je le disais, avec l'arrivée du christianisme, donc chute de l'Empire romain en 476, et le christianisme se développe en Armorique, non pas par l'armée romaine, mais par la population de la Bretagne insulaire qui va se déplacer jusqu'en Armorique, en nommant la région la Petite Bretagne, puis la Bretagne, et en ramenant avec eux leur culture qui était plus celtique, puisqu'ils ont été moins romanisés que le reste de la France, de la Gaule. Et avec cette culture celtique, donc à la fois la religion chrétienne, mais qui est un peu différente de la règle française, et leur langue, qui est une langue celtique, et qui, en se mélangeant au gaulois, va donner le breton. Et donc, c'est la pratique de l'inhumation là, qui revient, d'où ces cercueils. Donc ici, on a un grand cercueil en ardoise, qui est marqué d'une croix de Saint-André, c'est-à-dire un X. Donc ça veut dire qu'on retrouve cette sorte d'inscription pour nommer le défunt, et montrer qu'il est bien dans la religion chrétienne. On a un cercueil en plomb et deux cercueils en bois. Bon, là, il y en a un qui a disparu, qui est à Daoulas, justement, dans l'exposition. Donc, c'est des cercueils qui sont assez petits. Ils étaient destinés à des enfants. Et en fonction du degré de richesse, on avait un matériau plus ou moins riche, du bois au plomb à l'ardoise, qui était le matériau le plus noble. Donc, on a toujours cette différenciation de l'argent par l'argent dans le contexte funéraire.
Et dans ces cercueils, il y avait donc les ossements. Est-ce qu'il y avait des linceuls ou des objets ?
Alors, on n'a pas retrouvé de traces des linceuls ni des objets. Pas dans ces cercueils, ni dans les tombes. Là, pour ça, il va falloir peut-être avancer un peu dans le temps. Mais par exemple, sur tout ce qui a été retrouvé au couvent des Jacobins, voilà, des choses comme ça, comme Louise de Quingot, où là, on a retrouvé beaucoup plus de choses, notamment son masque funéraire. Mais pour le Moyen-Âge, on a assez peu de traces, malheureusement. Toujours en raison du sol et des contextes de fouilles. Par contre, ici, on a un sarcophage, lui, qui est un peu plus impressionnant, qui est en granit et qui a une triple fonction, puisqu'il a servi à la fois d'embarcation, selon la légende, pour des saints venant de l'actuelle Grande-Bretagne qui voulaient migrer en Armorique pendant ces fameuses migrations bretonnes et qui auraient traversé la Manche à l'aide de ce cercueil en granit, aidé par le souffle divin. Et donc ce serait Saint Budoc qui aurait traversé la Manche dans cette embarcation et qui serait arrivé à l'île Lavrette à côté de Bréa, où il aurait fondé son premier monastère, formé énormément de moines qui se sont formés là-bas, comme Saint Guénolé, qui fonde ensuite l'abbaye de Landévennec. Ça, c'est la première fonction de ce sarcophage. Ça pourrait être aussi donc forcément un sarcophage parce qu'il est un peu plus large dans sa partie supérieure, qui pourrait laisser la place pour les épaules. Et sa forme, du coup, laisse penser à un sarcophage, même si certains pensent à une baignoire. Et il a aussi un trou de vidange, donc ça pourrait être enfin une auge à bovin. Donc voilà, trois explications possibles pour cet objet qui a été retrouvé à Dol de Bretagne. Ce qui n'est pas près du tout de l'île Lavrette où est arrivé Saint-Budoc. Mais en tout cas, il est associé à cette légende. Et il fait partie des objets phares du musée de Bretagne. Donc là, on est encore dans le haut Moyen-Âge. Ensuite vont arriver les Vikings, se développent les villes quand on arrive plutôt au XIIe siècle, au moment de la Renaissance culturelle. Et avec l'évolution des villes, les églises, les cathédrales et des rites funéraires qui vont évoluer autour de personnages plus humains. Donc l'individualisme se développe avec des histoires comme celle d'Abélard. On commence à plus se recentrer sur l'humain et toute l'iconographie va évoluer en fonction. Et celle des rites funéraires également. Ça va être notamment la mode des gisants. Donc en avançant dans cette galerie religieuse parsemée de métaux, de sculptures d'église et de chapiteaux, on se retrouve devant Jean de Vaunoise, qui est le premier gisant retrouvé en Bretagne. Donc gisant, ça vient du verbe gésir en latin, qui veut dire être couché. C'est presque comme les pharaons, enfin les momies égyptiennes, ou en tout cas les sarcophages. C'est aussi un modèle étrusque, on retrouve déjà des représentations des personnes enterrées. L'idée, c'est de garder, de montrer son image à travers la mort, de garder une trace, toujours dans cette quête un peu d'éternité, en montrant, comme le barbe tout à l'heure, finalement, sa fonction, puisque là, on retrouve sur ce gisant la coiffe des évêques, puisqu'il était évêque de Dol, et la crosse, qui montre bien son rang assez élevé. Alors ce qui est incroyable ici, c'est la polychromie qui est en partie conservée, puisque souvent dans les églises, on voit des gisants qui sont en pierre, et on peut trouver ça un peu triste, mais il faut s'imaginer qu'ils étaient vraiment colorés, peints de façon un peu plus, pas forcément joyeuse, mais en tout cas, ils étaient peints. Et à ses pieds, on trouve un animal totem, qui est une panthère, alors qu'il y a elle aussi pas mal de polychromie, notamment sur ses yeux, elle a un œil rouge, et les babines noires. On considérait dans la religion chrétienne que c'est un animal magique qui était doté de pouvoir par ses couleurs assez fantastiques.
Là, on est plutôt sur la représentation du défunt. On n'est plus sur une sculpture pour honorer le défunt.
Là, c'est la représentation du défunt avec souvent des commandes qui étaient faites de leur vivant. Surtout quand on avance, ouais, quand on avance dans le temps, c'est parfois bon, pour les personnes les plus importantes, c'était elles qui commandaient leurs sculptures. Qui commandait aux sculpteurs des commandes assez prestigieuses, surtout aux sculpteurs de renom, ou alors pour sa famille proche, comme Anne de Bretagne qui va commander le gisant de ses parents dans la cathédrale de Nantes, à un sculpteur aussi très important, le sculpteur du roi tout simplement, voilà, en toute modestie. Alors un deuxième gisant un peu plus tardif, c'est Jean de Guibet ou Jacques de Guibet, on ne sait pas lequel des deux frères. A été enterré sous ce gisant qu'on a retrouvé dans la cathédrale de Rennes. En attendant, on l'appelle Jean-Jacques. donc il est à la mode italienne, cette fois on est en pleine Renaissance, c'est un gisant en marbre, avec parsemé de putti, ces petits angelots qui font très italien. Donc on peut avoir une idée de sa fonction par son vêtement. Il a une armure et une cotte de maille, donc il était chevalier. Il a aussi une épée qui est à côté de lui, ce qui veut dire qu'il n'est pas mort au combat. Il est mort sans doute de maladie ou de vieillesse, sinon il l'aurait dans les mains. Il a toujours les mains sur la poitrine, mais qui sont moins croisées que Jean de Vaunoise. Et à ses pieds, toujours un animal totem. Cette fois-ci, c'est un lion qui symbolise la force et le courage. Souvent pour les femmes, c'était un chien, le symbole de la fidélité. Alors là, le lion est un peu triste, il ressemble à un chien aussi, mais il faut s'imaginer qu'en Bretagne, on avait peu de modèles. Et on retrouve sur son vêtement plein de petits motifs de coquille Saint-Jacques, qui était l'emblème de la famille. Peut-être que ça veut dire qu'il s'agissait de Jacques, et qu'il a mis son emblème aussi, mais voilà, on n'a pas de preuve de ça. Et un personnage important, donc on le voit par le matériau qui a été choisi, même si c'est pas du marbre de Carrare, ça reste un matériau assez cher. Il a eu un rang assez important aussi, cette fois grâce à son oncle, qui était Pierre Landais, qui était le trésorier du duc de Bretagne François II. Et grâce au rang que lui a accordé son oncle, il a pu devenir effectivement chevalier et donc avoir un gisant assez important. Donc là encore, c'est une production destinée à l'élite, aux personnes qui accèdent à ces titres de chevalier ou à des titres religieux. Donc c'est pas pour le commun des mortels, mais l'idée c'est encore une fois de montrer ce qu'on a pu réussir dans la vie et de garder une trace de son image. Là, toujours à la mode, puisqu'on est dans la mode de la Renaissance, la mode italienne, il est lui-même coiffé avec une coupe au carré qui correspond à cette mode italienne.
Et là, plus on avance dans les âges, dans le temps, plus il y a de détails.
Exactement, voilà, au Moyen-Âge, la figuration humaine est assez sommaire. D'ailleurs, c'est pas ce qui compte forcément de représenter l'humain. On représente plutôt l'idée de l'humain, mais pas ses détails comme un portrait. Là, on arrive vraiment au portrait... à partir vraiment du 12e siècle à peu près. Et effectivement, on peut reconnaître des traits, même si là, on ne sait pas lequel des deux frères c'est. Il y a l'idée quand même de représenter effectivement la personne de façon de plus en plus précise. Malgré le matériau de pierre qui est assez dur à graver, effectivement, on a de plus en plus de détails pour cette idée de reconnaître. Et puis les inscriptions aussi qui pouvaient l'accompagner en plus. En plus des indices, voilà, là, les coquilles Saint-Jacques, par exemple, qui permettent de situer la famille, les emblèmes. Donc on montre à la fois la fonction, les qualités et la filiation, finalement. Et puis et la richesse, et puis bah, le lieu aussi où on est enterré, forcément, est symbolique, puisque le but, c'est de se faire enterrer dans les églises, ce qu'on appelle « ad sanctos », c'est-à-dire « à côté des saints ». Et donc là aussi, en fonction de là où on peut payer sa sépulture, on va montrer le degré de richesse de la famille. Et plus on est dans les cimetières, moins on est près du cœur de l'église, plus on est pauvre.
Parce que là, déjà à cette époque-là, existent les cimetières.
Oui, tout à fait. Ouais, à partir du Moyen-Âge, on commence à avoir des cimetières. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, les cimetières sont accolés aux églises. Et au XVIIIe siècle, une ordonnance royale ordonne que les cimetières sortent des villes pour des raisons d'hygiène. Donc c'est là que les cimetières commencent à sortir. De ces villes et pour devenir un peu ce qu'on connaît toujours aujourd'hui. Donc l'histoire d'Anne de Bretagne est plus ou moins connue, mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été revisitée dans La Légende de la Mort. Donc un recueil recensé par Anatole Le Braz, qui est parti en quête des récits liés à la mort en Bretagne, en Basse-Bretagne principalement. Et il a compilé finalement toutes ces histoires qu'on pouvait se raconter au coin du feu pour en faire un recueil, ce qui a permis de sauvegarder ce patrimoine immatériel. Et dans ces histoires, il y en a une qui est rigolote et qui revisite l'histoire d'Anne de Bretagne, ça s'appelle Anne et la Gabelle. La duchesse Anne demeurait au château du Correc en Kerfaut. Un jour, son mari lui dit « La réunion des États va avoir lieu, il faut que je m'y rende. Prenez garde à ce que vous y ferez. Surtout, n'imposez pas de nouvelles charges à la Bretagne. Non, non. » Il part, assista aux États, puis s'en revint à son manoir. « Eh bien, j'ai dû consentir à l'imposition de la gabelle. » « Ah !» Sans rien ajouter, la duchesse passa à la cuisine et glissa quelques mots dans l'oreille de la servante qui faisait cuire de la bouillie pour le repas de son maître. Peu d'instants après, la servante servait la bouillie toute chaude. Le mari de la duchesse y planta la cuillère. « Pouah ! On a oublié d'y mettre le sel !»« Et qu'importe ! Cette bouillie est exécrable, vous dis-je. » Il faudra cependant que vous la mangiez telle qu'elle. Vous devez l'exemple à nos paysans. Vous les privez de sel, privez-vous-en vous-même. J'entends qu'on sale mes aliments. Abolissez donc la gabelle. Je ne le puis, j'ai juré d'aider à la maintenir tant que je vivrai. Tant que vous vivrez. Certes. Oh, eh bien, ce ne sera donc pas pour longtemps. Anne tue son mari et fait annoncer l'abolition de la gabelle. Les nobles protestèrent. Votre mari avait cependant juré de maintenir la gabelle tant qu'il vivrait. Oui, mais il est mort, et avec lui, nous allons enterrer la gabelle. Depuis lors, en effet, on n'a plus jamais entendu parler de ce fléau du monde. Donc la gabelle, c'est l'impôt sur le sel. Et c'est rigolo, puisque dans la réalité, Louis XII, le troisième mari d'Anne de Bretagne, l'a trahi en mariant leur fille Claude à François Ier. Donc Anne subit un peu les décisions de ses maris successifs toute sa vie. Et là, dans cette histoire, elle reprend le pouvoir en tuant son mari. Elle a quand même réussi, en réalité, à ne pas imposer la gabelle, puisqu'elle a négocié pour que la Bretagne ne paye jamais de nouvel impôt, même après son rattachement avec la France. C'est pour ça qu'on mange du beurre salé, puisqu'on ne payait pas l'impôt sur le sel. Un peu grâce à Anne de Bretagne, finalement.
D'accord.
Voilà. Et alors, on pense souvent que c'est aussi grâce à les autoroutes, mais ça, c'est une légende urbaine. Ça date de 1968, les autoroutes gratuites. Voilà, il n'y a que la gabelle pour Anne. Et en réalité, elle meurt à 37 ans, épuisée de ses couches, parce que sur ses 9 grossesses, il n'y a que 2 enfants qui survivent. Et elle ne verra jamais le rattachement de la Bretagne à la France, puisqu'elle meurt avant. Et en 1532, la Bretagne, cette fois, est rattachée à la France par l'édit de Vannes, signé par François Ier avec les États de Bretagne. Et on arrive dans ce qu'on appelle la période de l'Ancien Régime, ou la Bretagne moderne, qui est une période plutôt d'âge d'or, où les Bretons vont s'enrichir grâce au commerce du tissu, le chanvre et le lin. Et quand ils ont de l'argent, ils investissent dans le mobilier, les lits clos, les coffres, mais aussi dans leur salut, c'est-à-dire dans les églises. Donc c'est là que se développent les enclos paroissiaux qu'on connaît en Basse-Bretagne, mais aussi cette guerre des plus beaux clochers. Et le décor aussi, le décor sculpté qu'on peut retrouver dans les églises. Alors au musée, on a plusieurs exemples de groupes statuaires en bois qui datent du 18e, qui ont été retrouvés dans le Finistère. Et dans ces statues, on retrouve certains saints et certains martyrs, puisque dans cette période du Moyen-Âge se développent aussi différents écrits apocryphes qui complètent, on va dire, les histoires de la Bible, comme la légende dorée de Jacques de Voragine, qui va développer certaines histoires de martyrs. C'est le cas de Sainte Marguerite, dont on retrouve une représentation ici. Donc elle sort en fait du dos d'un dragon vert, qui est censé être un dragon, mais ici qui ressemble plutôt à un gros lapin. Et on la voit surgir du dos de ce dragon en geste de prière et en levant le genou, comme pour sortir, comme si elle sortait d'une marche. Elle est en fait en train de faire appel à Dieu pour être libérée du ventre de ce dragon qu'il a avalé sous l'ordre d'Olibrius, qui était un préfet. On est là à Antioche dans l'Antiquité. Et Olibrius courtisait Marguerite, qui refuse de se marier avec lui puisqu'ils n'ont pas la même religion. Elle est chrétienne et lui, il est païen. Et elle ne veut pas se convertir pour pouvoir se marier avec lui. Donc il est vexé comme un pou, lui fait subir des tas de supplices, notamment celui d'arracher sa peau avec des peignes de fer pour enlever toute la chair de son corps jusqu'aux os. Il va la brûler, il va lui faire subir plein de supplices jusqu'à ce fameux dragon duquel elle sort saine et sauve grâce à son geste de prière. Et le fait qu'elle sorte indemne du ventre du dragon va lui permettre d'être associée et de devenir la sainte patronne des femmes en couche, puisqu'elle sort indemne d'un ventre, ça rappelle forcément une femme qui accouche, ce qui fait qu'elle est très, très populaire en Bretagne, puisque c'est une région où il y avait beaucoup de naissances, mais aussi beaucoup de mortalité infantile. À côté, on trouve aussi Saint-Denis qui porte sa tête dans ses bras, puisqu'on raconte qu'il a été décapité, mais ne souhaitant pas être enterré là où il a été mort, il a porté sa tête dans ses bras pendant toute la rue Saint-Denis, de Montmartre, le mont des martyrs, jusqu'à la basilique Saint-Denis, qui est devenue du coup sa sépulture.
C'était Dany Croa et son morceau Odeth sur Canal B.
Donc on arrive dans l'exposition temporaire Une vie en photographie qui sera ouverte jusqu'au 3 décembre 2023 et qui présente à la fois le travail de Mathieu Pernaud qui est photographe et qui a exploré le fond photographique du musée de Bretagne et notamment à la recherche du rôle des photographes. Donc son premier travail c'est une enquête autour des enseignes Kodak qu'il est allé refotographier pour voir ce que c'était devenu aujourd'hui. Et il n'en reste que deux, en fait, des boutiques qui sont restées des boutiques de photographes. Toutes les autres sont devenues des coiffeurs, des salons de thé. Ce qui montre bien comment notre rapport à la photographie a évolué, puisqu'avant, on allait chez le photographe presque comme chez le médecin, au moment important de sa vie, au baptême, au mariage, aux conscriptions, pour les communions. Donc ça marquait finalement tous ces rites de passage. Et donc le cœur de cette exposition, c'est une frise de photographie qui en 50 photographies imprimées en format presque à échelle 1, retrace une vie humaine finalement, sur 75 ans, de 1900 à 1975, avec des inconnus, des gens de la vie, des gens normaux de tous les jours, qui sont passés se faire tirer le portrait chez des photographes bretons, dont on a les fonds au musée de Bretagne, puisque un des conservateurs, Jean-Yves Veillard, récoltait tous les fonds de photographes qu'il trouvait. Ce qui n'avait pas de sens à l'époque, ça n'avait pas de valeur, mais aujourd'hui ça nous dit beaucoup de choses sur ce métier, qui était vraiment un métier de technicien, d'artiste et d'artisan à l'époque. Donc là, on replonge un peu dans ce passé-là, à cette époque où on voyait encore des enseignes de photographie dans les villes. Et forcément, dans ces rites de passage, le dernier c'était celui de la mort, et il y avait cette pratique du portrait funéraire qui était assez développée. Donc on a notamment une salle réservée à ces photos funéraires qui sont ici des photos d'enfants. On a effectivement beaucoup de photos funéraires d'enfants puisque c'était parfois la seule photo qu'on pouvait garder de ces enfants décédés en bas âge. S'ils n'avaient pas été pris en photo auparavant lors de leur baptême, par exemple. Et même si ça paraît morbide aujourd'hui, à l'époque c'était vraiment un hommage. Donc l'idée, c'est de positionner l'enfant de façon plutôt noble, avec des beaux habits. Souvent, ou parfois, ils ont des chapelets dans les mains pour rappeler le fait qu'ils étaient baptisés, ou voilà, qu'ils étaient liés à la religion, donc forcément pour faciliter peut-être leur accès au paradis, par exemple.
Là, on est en 1947.
Voilà, on a quatre photographies dans cette salle qui se voulaient... une sorte de copie de salon funéraire. On a une photo par mur, comme si nous-mêmes, on veillait ces enfants. Donc, cette photo de 1947 a été prise par Émile Oudius, qui est un de nos photographes dont on a des fonds importants.
Et ces enfants, là, ils sont seuls dans leur lit. Ils ne sont pas entourés par leurs proches, par leurs parents.
Exactement, ouais. On a des enfants qui sont seuls, allongés sur les lits, les mains croisées sur la poitrine ou... sur le ventre, il y a un côté où on dirait qu'ils dorment un peu, c'est pas... Voilà, c'est assez apaisé d'un côté. Il y a quand même une recherche de décor, on a mis des beaux tissus derrière et on sent qu'on les a habillés aussi avec leurs vêtements du dimanche.
Oui, il y a toute une mise en scène.
Voilà, c'est ça, ils sont coiffés. Voici une photo d'un enfant très très jeune dans son berceau. En 1932, c'est vraiment un bébé toujours avec la croix entre les mains. Donc ça permet de reparler de cette pratique du portrait funéraire qu'on a un peu oublié, mais qui s'est développée vraiment au XXe siècle. Et on voit aussi qu'il y a différents niveaux de richesse dans les maisons, par exemple. Sur la quatrième photo, on voit que les murs sont un peu plus sales, c'est du crépi. Alors, sur les autres photos, il y avait des tissus un peu plus travaillés qui permettaient de mettre un décor. Donc, c'est une pratique qui se développe quelle que soit la fortune, même si ça coûtait assez cher de faire venir un photographe. Ça faisait aussi partie de cet enjeu un peu de promotion sociale qu'on retrouve sur les autres photographies des vivants qui vont cacher leur origine, on va dire, par des fonds photos. Qui permettait de s'anoblir, de copier les photos bourgeoises dans des châteaux, etc. Donc, comme aujourd'hui, on met des filtres Instagram pour montrer qu'on est ailleurs, en fait, ça existait déjà avec des fonds peints qu'on mettait derrière soi. Et juste devant, on a des photos aussi liées aux funéraires de femmes en noir qui semblent être peut-être des veuves ou des femmes en deuil, puisqu'on est dans le premier quart du XXe siècle, donc on est sans doute après la Première Guerre mondiale. Et on a quatre photos de femmes en noir qui semblent vraiment en deuil avec parfois le voile. Et ça paraît assez étonnant de vouloir immortaliser ce moment de deuil, puisque normalement, c'est pas une période très heureuse. Et là, elles ont pourtant été montrées leurs habits chez le photographe. Et finalement, c'est pas anodin, puisque ce vêtement de deuil, c'était toujours un enjeu social, puisque le noir était une des teintures les plus chères. Et donc, en fait, porter le veuvage assez longtemps montrait que le mari ou le père qui était défunt avait laissé suffisamment de richesses à la femme pour qu'elle puisse porter le deuil assez longtemps. Donc le deuil habituel, c'était un an pour, selon le degré de proximité de la personne, c'était le mari, le père, etc. Et après, on avait le semi-veuvage qui durait 6 mois, où là, on pouvait mélanger les vêtements noirs avec d'autres couleurs. D'où l'intérêt, du coup, pour ces femmes d'aller chez le photographe avec ces fameux fonds photographiques de décors de châteaux qui les exportent dans un autre univers. Et leur font une sorte de promotion sociale. Alors là, c'est rigolo parce qu'on voit vraiment l'atelier du photographe, mais évidemment, les photos étaient recoupées pour qu'on ait cette impression d'être en extérieur ou dans un château.
Mais les photographes conservaient les négatifs.
Oui, oui, voilà. Là, on a justement à côté une installation avec toutes ces boîtes de négatifs ou parfois de plaques de verre. Donc ils conservaient, en tout cas, ce qu'on a effectivement conservé tout. Et donc notre travail au musée, c'est de tout numériser, tout dépoussiérer, conditionner pour que tout se conserve bien dans de bonnes conditions. Et Mathieu Pernaud, du coup, qui a commissionné l'exposition, s'est intéressé à toutes ces boîtes avec des inscriptions manuscrites qui montrent comment c'était catalogué chez les photographes. Et nous, en fait, on s'en servait plus parce qu'on les reconditionne dans des plus grandes boîtes pour que ce soit mieux conservé. Donc lui a compilé toutes ces boîtes pour en faire une installation un peu contemporaine à la Christiane Boltanski sur cette idée de mémoire et de comment la photographie peut conserver pour l'éternité des gens morts. Et d'ailleurs, c'était un peu sa réflexion, puisque sur cette grande frise de personnes inconnues, en fait, il a vécu avec, puisqu'il les avait imprimées chez lui. Et ça fait un peu bizarre, parce que d'un côté, bon, c'est des morts qui le regardaient. À la base, c'était lui qui les regardait, puis au bout d'un moment, il se sentait un peu fixé. Donc, il a vécu avec. Et dans une vitrine sont présentés tous ces négatifs, justement, qui sont enveloppés dans des petits papiers qu'on pourrait assimiler à des linceuls. Et il a mené toute cette réflexion autour de ces négatifs qui, pour lui, étaient comme une fosse commune, où on aurait laissé ces personnes anonymes qui à la fois effectivement sont mortes, puisqu'on est parfois au tout début du 19e siècle, et en même temps sont présentes pour l'éternité puisqu'elles revivent un peu ici dans l'exposition. Donc on va passer dans la deuxième exposition temporaire, qui est celle de Nolwenn Broad et qui est ouverte jusqu'à fin octobre. Là, j'en profite parce qu'on a du coup ces deux pratiques qui sont traitées dans les expositions temporaires, ces fameux portraits funéraires, et ici, chez Nolwenn Broad, le rite de la proëla, qui est un rite qui existe en particulier sur l'île de Wesson. Et à la fin de l'exposition, on se retrouve devant une énorme croix composée de petites croix noires. Alors, on dirait du réglisse, mais en fait, à la base, c'est de la cire, normalement, mais qui est blanche à l'origine. Donc le rite de la proëla, en fait, est relaté aussi dans la légende de la mort. Donc à la base, c'est, puisque c'est une île, il y a beaucoup de pêcheurs, et parfois on ne retrouve pas les corps de ces pêcheurs disparus en mer. Donc on remplace ces corps par ces petites croix de proëla pour pouvoir honorer le mort avec une cérémonie. Donc les croix sont disposées sur une table avec une nappe spécifique pour avoir d'abord la veillée. Puis on a une procession jusqu'à l'église. Et la croix n'est pas enterrée mais glissée dans une petite urne à croix de proëla qui est vidée à chaque Toussaint. et qui existe toujours aujourd'hui au cimetière de Ouessant. Mais le rite s'est arrêté à la fin du XXe siècle, parce qu'on commençait à retrouver les corps des marins disparus, mais du coup, auxquels on avait déjà organisé une cérémonie alors qu'on n'avait pas retrouvé leur corps. Donc du coup, on a arrêté ce rituel. Mais voilà, c'est un rite spécifiquement breton, dont s'est inspiré l'artiste Nolwenn Broad, qui est photographe, qui a exploré tout ce rituel et qui en a fait à la fois cette œuvre un peu contemporaine et aussi une installation vidéo qui retrace plutôt la procession à partir... elle a demandé en fait au Cercle Celtique de Douarnenez de recréer cette idée de procession, mais de façon voilà, très, très artistique et un peu dansée aussi, pour s'inspirer librement finalement de ce rituel. Donc dans ce qu'on appelle la deuxième boucle du musée, qui traite de la partie contemporaine de 1850 aux années 2000, une vitrine est consacrée à la pêche, qui est une économie assez importante en Bretagne à cette période. Donc on trouve différentes maquettes de bateaux, un chalutier, un thonnier, un ternevier, qui correspondent à deux pratiques de pêche, celle au long cours et celle plutôt près de la côte pour les petits poissons, les maquereaux, les sardines, les thons. Et sur les pêches au long cours qu'on pouvait exercer sur ce gros bateau à trois mâts, qui pouvait aller jusqu'à Terre-Neuve ou jusqu'en Islande, toutes ces histoires de pêcheurs sont restées gravées par des écrits comme ceux de Roger Vercel, de Pierre Loti, et avant eux de Paul Sébillot ou d'Anatole Le Braz, encore une fois, dans La Légende de la Mort. Alors, La Légende de la Mort, donc, c'est un livre qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, et qui est composé de différents chapitres. Le premier, donc, il y a les pendus, les noyés, hein, il y en a pour tous les goûts, mais le premier, c'est celui des intersignes. Et moi, c'est celui que je trouve le plus incroyable. Les intersignes, c'est ces signes qui annoncent la mort ou qui la font sentir aux vivants. Et des fois, c'est des histoires qu'on entend dans nos cercles autour de nous, des personnes qui ont senti une bougie s'éteindre alors que quelqu'un disparaissait dans leur famille à un autre endroit sur Terre, ou une personne qui pleurait un soir sans raison. Enfin, ça arrivait à une cousine qui a pleuré un soir sans raison, à l'heure même où mon beau-père est mort. Enfin voilà, il y a des histoires comme ça qu'on a pu entendre autour de nous. Et celles-ci ont été relatées par Anatole Le Braz dans ce livre et sont datées et situées. Donc ça rend un peu parano parce qu'on se demande toujours, est-ce que c'est vrai ? Et quand on compare à ce qu'on entend nous aujourd'hui, on se dit mais c'est fou, parce qu'en fait c'était déjà raconté, c'était déjà des histoires qu'on se racontait au coin du feu à l'époque, mais forcément dans d'autres contextes. Donc celui-ci s'appelle l'intersigne du berceau. Marie Gouriot demeurait au village de Mingwen, près de Paimpol. Son homme était à Islande où il faisait la pêche. Ce soir-là, Marie Gouriot s'était couchée après avoir placé sur le banc Tossel, tout contre son lit, le berceau où dormait son petit enfant. Elle était assoupie depuis quelque temps, lorsque dans son sommeil, elle crut entendre l'enfant pleurer. Elle ouvrit les yeux, regarda. Jésus m'a doué. La chambre était pleine de lumière et un homme, penché sur le berceau, berçait doucement le petit en lui chantant à mi-voix un refrain de matelot. L'homme avait rabattu sur son visage le capuchon de son ciré, en sorte qu'on ne pouvait distinguer ses traits. « Qui êtes-vous ? » s'écria Marie Gouriot, épouvantée. L'homme leva la tête. La femme Gouriot reconnut son mari. « Comment ? Tu es déjà de retour ?» Il n'y avait guère plus d'un mois qu'il était parti. Elle remarqua que ses habits ruisselaient, et cela sentait très fort l'eau de mer. « Prends donc garde, dit-elle, tu vas mouiller l'enfant. Attends, je vais allumer du feu. » Elle avait déjà les deux jambes hors de son lit et s'apprêtait à passer son jupon. Mais la lumière étrange qui emplissait la maison s'évanouit aussitôt. Marie chercha à tâtons les allumettes, en frotta une, et constata que son mari n'était plus là. Elle ne devait plus le revoir. Le premier chasseur, qui revint d'Islande, lui apprit que le navire où s'était embarqué son homme s'était perdu corps et biens la nuit même où Gouriot lui était apparu penché sur le berceau de son fils. Conté par Gwenvic, cantonnier à Paimpol. Voilà pour finir avec cette histoire réjouissante, dans cette visite mortelle. J'espère que ce petit voyage funéraire vous a plu en Bretagne et vous a donné envie de découvrir bientôt l'exposition temporaire « Mourir, quelle histoire ?» à partir du 16 mars à Rennes et dès maintenant à Daoulas pour les impatients. et les impatientes.
Merci beaucoup, Laura, pour cette visite très riche et passionnante.
Je suis Lucille Milliard, réalisatrice du podcast La mort tout un art. Merci à Laura Bourdet et au Musée de Bretagne. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration du podcast. Et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.
C'était un épisode long format du podcast La mort tout un art, réalisé par Lucille Millard, que vous retrouverez à la rentrée sur les ondes de Canal B. Un épisode aujourd'hui diffusé dans Debout le Vanille, l'émission estivale de la radio, concoctée par les membres de l'équipe et à écouter du lundi au vendredi à 17h. Et pour les podcasts, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt.